السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam et mes chères sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir, qui nous donne la possibilité depuis une dizaine de jours déjà, de vivre un mois extrêmement important dans le calendrier islamique. Ce mois extrêmement important, on peut le placer dans la hiérarchie des mois du calendrier islamique immédiatement après le mois béni de Ramadan. Nous sommes tous conscients de l'importance du Ramadan par rapport aux jeûnes, aux tarawih, aux vertus qu'il y a et qu'on connaît du mois de Ramadan. Il faut savoir que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a inculqué l'importance qui est donnée dans l'islam à ce mois spécial qui est le mois de Muharram. À tel point que Al-Hasan al-Basri rahimahullah, il dit que فَلَيْسَ شَهْرٌ فِي السَّنَةِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. Qu'il n'y a pas un mois dans l'année qui a autant d'importance pour Allah Azza wa Jal après le mois de Ramadan que ce mois, c'est-à-dire le mois de Muharram. Et mes chers frères, nous remarquons que dans le calendrier islamique, Allah Azza wa Jal nous donne beaucoup de bienfaits, beaucoup de fada'il. Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de nous rapprocher de lui par le biais parfois de décades, par le biais parfois de nuits, par le biais parfois de journées importantes ou de moments importants de la journée. Nous savons tous quelles sont les vertus du 15 Sha'ban. Nous savons également quelles sont les vertus du Ramadan, ça on l'a dit. Nous savons les vertus de la dernière décade du Ramadan, de Laylatul Qadr. Nous savons quelles récompenses on a eues en jeûnant les 6 jeûnes de Shawwal après le mois de Ramadan. Et récemment, on a vu comment Allah Azza wa Jal était généreux, comment il pouvait nous accorder quantité de thawab et pardonner quantité de péchés uniquement par le fait de jeûner Sawm Yawmi Arafah, par le fait de jeûner le jour de Arafah, et plus encore pour ce musulman qui a eu le tawfiq de la part d'Allah de jeûner même les 10 premiers jours de l'Hijja. Et maintenant l'année 1432 commence, et Allah Azza wa Jal commence cette année avec une décade, après une décade, avec une nuit, avec un moment, on ne va pas dire si une nuit ou une journée, mais avec une date qui est historique. Cette date qui est historique, qui donne vraiment la valeur à ce mois de Muharram, c'est le 10e du mois de Muharram. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, donnait une telle importance à ce mois de Muharram, et l'action la plus importante à faire bientôt, ça on va le voir, c'est bien sûr le fait de jeûner le jour du 10e de Muharram. On reviendra là-dessus par la suite. Hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que je n'ai jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam, donner autant d'importance à un jour, c'est-à-dire pour faire le saum, pour jeûner, que ce jour de Ashura, que le 10e du mois de Muharram. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il savait pertinemment quelle était la valeur de ce jour, mais on irait même plus loin. Si on remonte le calendrier, nous nous rendons compte que les anbiya, les prophètes, alayhi salatu wassalam, d'une manière générale, ils savaient déjà quelle était l'importance de ce jour. Hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, dit « Yawm Ashura ». كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم. Le jour de Ashura, c'était un jour que les Anbiya, les prophètes, jeûnaient déjà à leur époque. Donc vous, musulmans, vous aussi, jeûnez le jour de Ashura. C'est-à-dire que c'est un jeûne historique. Et au-delà du jeûne, au-delà du fait de jeûner ce jour, c'est le fada'il et les vertus et le symbolisme du jour de Ashura qui était connu par les prophètes même avant Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Il est même dit dans certaines versions que, à l'époque pré-islamique, dans le Jahiliya, avant l'islam, les mushrikines, les polythéistes, donc ils avaient, les Arabes, ils avaient commis un grave péché. Et ça, c'est le hadith de Ikrama, radiallahu anhu. Et donc, les Quraysh ont demandé est-ce qu'il y a un kafara pour ce péché? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se rachète de ce péché? Ils ont demandé quel était le tawba possible pour qu'Allah pardonne ce péché qu'ils avaient fait.
On a donné la réponse au Quraysh que c'est le fait de jeûner le 10 Muharram, le jour de Ashura, pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne le péché qu'ils avaient accompli. Et mes chers frères, en islam, en ce jour de Ashura, il y a eu certains événements. Alors on entend beaucoup d'histoires, il y a des événements qui sont antiques, il y a des événements qui nous sont relatés des Banu Israël ou des Ahli Kitab, des événements qui ne sont pas toujours authentiqués, mais il y a certains événements qui sont en relation avec les Anbiya alayhi salatu wassalam, et c'est ces événements-là qui nous intéressent. Dans certaines sources, il est dit que Ibrahim alayhi salam serait né le jour de Ashura. Dans certaines sources, il est dit également que c'est en ce jour que Isa alayhi salam a été élevé au ciel. Dans certaines sources, il est également dit que l'arche de Noé s'est stabilisée sur le Djoudi, la montagne de Djoudi, le jour de Ashura. Dans certaines sources, il est même stipulé que Youssouf alayhi salam est enfin sorti de la prison le jour du 10 Muharram. Et dans certaines sources, il est stipulé également que Allah Azza wa Jal a accordé son pardon au peuple de Yunus alayhi salam en ce jour. Et le récit qui est vraiment authentique, qui se trouve dans les Sahihain, le récit qui est sahih, qui est authentique, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam et de Banu Israël avec lui, qui ont été sauvés du zulm, de l'oppression de Pharaon alayhi la'natullah, et la destruction de Pharaon en ce jour. Ça c'est authentique, et cet événement a eu lieu le jour de Ashura, et c'est la raison pour laquelle les Yahouds, les Juifs, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, à Madina, jeûnaient ce jour, et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous a, on dirait, ordonné ou conseillé, au début c'était ordonné, ensuite conseillé, à nous musulmans de perpétuer cette sunna, de perpétuer ce jeûne par rapport à notre attachement à Moussa alayhi salam, qui était un prophète qui invitait vers le tawhid, vers le monothéiste, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors avant de parler de l'importance de jeûner ce jour de Muharram, vous savez, il y a différents aspects abordés en cette nuit. On peut parler de l'histoire des Umayyades avec Maqtal al-Hussein, d'accord ? Mais nous, on va plutôt s'orienter vers une histoire qui est donc sahih dans les hadiths authentiques, et c'est une histoire très connue, l'histoire de Moussa alayhi salam. Alors, l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est une histoire, subhanallah, qui revient dans la plupart des siparas du Coran, mais concernant le 10e Muharram, c'est le moment précis où Allah, subhanahu wa ta'ala, a libéré, mais définitivement, les Banu Israël du joug de l'oppression de Pharaon, et Allah Ta'ala a accordé la liberté à ces gens, et Allah Ta'ala a accordé la izza à ces musulmans qui suivaient le Nabi Moussa alayhi salatu wassalam. Alors l'histoire de cette anecdote précise, hein, de cette histoire de Moussa alayhi salam, commence à la veille d'un jour de fête des Banu Israël. Nous sommes à la veille d'une fête que les Banu Israël avaient l'habitude de fêter, mais qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Alors là, les Banu Israël ont envoyé une délégation pour voir Pharaon et demander l'autorisation à Pharaon de leur accorder une journée pour qu'il s'éloigne un petit peu du palais et qu'il fête dignement cette fête qui était propre aux Banu Israël. Et Pharaon a dû accepter, mais à contre-cœur. Il a accepté d'accorder une journée aux Banu Israël, mais à contre-cœur. Mais en fait, les Banu Israël avaient autre chose en tête. C'était une ruse. Pour eux, ils allaient s'éloigner un peu du palais de Pharaon, mais leur objectif, c'était quoi ? C'était de fuir le pays. C'était de fuir le pays et c'était de prendre la direction de Hacham, la Palestine, la Syrie, donc toute cette région, de prendre la direction de Hacham. Alors très peu de temps après leur départ, Pharaon a su que les Banu Israël l'avaient trompé et qu'ils se dirigeaient vers Hacham. Et là, Pharaon ordonne à la totalité de son armée de se préparer, de prendre leurs armes, leurs montures et d'aller à la poursuite des Banu Israël. Et à la tête de l'armée de Pharaon, il y a qui ? Ben, il y a Pharaon lui-même, l'homme le plus puissant à cette époque. Le plus grand pari, le plus grand kafir billah, le seul dans ce dunya qui a osé dire que c'est moi Allah. Le seul qui a osé dire à l'humanité, à ceux qui étaient sous sa responsabilité, sous son esclavage, que adorez-moi, faites mon culte, je suis Allah. C'est le seul qui a osé le dire. Et donc Pharaon, qui avait une armée, mais inestimable, on ne compare pas les Banu Israël à l'armée de Pharaon. S'il devait y avoir un affrontement, on ne compare même pas avec Ghazwat Badr, où il y avait 300 d'un côté Hein, et 3 fois plus 900 à peu près de l'autre côté. L'armée de Pharaon, c'était l'armée la plus puissante du monde à cette époque. Et les Banu Israël, ils avaient cette caractéristique qu'ils étaient traumatisés. La seule vue de Pharaon, le fait de voir Pharaon, traumatiser les Banu Israël. Parce qu'ils ont connu des années, on ne dit pas de souffrance, mais de torture. Où Pharaon ordonnait à ce que les enfants soient assassinés et les femmes des Banu Israël, hein, on les laissait vivantes, elles étaient réduites à l'état d'esclaves. Donc on a affaire à une population opprimée, traumatisée, qui a extrêmement peur de Pharaon. Mais Moussa alayhi salam va prendre ces gens, ces musulmans, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui suivent un prophète, on les appelle des musulmans, des gens qui se sont soumis. Donc Moussa alayhi salam va prendre ces gens sous sa responsabilité et il va les amener là où Allah Azza wa Jal lui a donné l'ordre, à un endroit précis. C'est pas Moussa alayhi salam qui choisit, ben on va aller par ici, on va prendre un raccourci, c'est là où Allah. C'est Allah Ta'ala qui fait, le hadith bien, le verset du Coran, wa awhayna. C'est du wahi. Allah révèle à Moussa alayhi salam où exactement il faut emmener les Banu Israël. De la même manière qu'Allah Azza wa Jal avait révélé à notre prophète alayhi salatu wa salam que la hijra devait se faire à Madina Munawwara. Quand il a vu en rêve une ville avec des dattiers, c'était wahyu min Allah dans son rêve. Et donc les anbiya alayhi salatu wa salam suivent à la lettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Moussa alayhi salam se dirige vers l'endroit qu'Allah Ta'ala lui a fait voir, Allah Ta'ala lui a donc révélé. Mais en cours de route, vous imaginez bien l'armée de Pharaon, beaucoup plus rapide, beaucoup plus équipée, hein, ils finissent par rejoindre les Banu Israël. Et là, il va y avoir une scène vraiment traumatisante, hein, qui va choquer profondément les Banu Israël. Ils se rendent compte que Moussa alayhi salam les a amenés vers la mer. Chemin faisant, on n'a pas pris de la route des montagnes ou je ne sais pas quelle direction pour aller vers Cham. Non, Moussa alayhi salam les a amenés directement vers la mer. Et arrivés près de la mer, se rendent compte qu'il n'y a plus d'autre issue, il faut aller tout droit. Ils se retournent, qu'est-ce qu'ils voient? L'armée de Pharaon qui s'approche. Ils regardent à leur droite, il y a quoi? Il y a la montagne. Ils regardent à leur gauche, il y a quoi? Il y a la montagne également. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'issue. Il n'y a strictement aucune possibilité d'échapper ces soirs. On fonce vers la mer, on se noie, hein, du premier jusqu'au dernier, ou alors on attend le combat et il n'y a pas de possibilité de combattre l'armée de Pharaon. Maintenant, imaginez la pression qu'il y a sur les épaules de Moussa alayhi salam. Imaginez la responsabilité que Moussa alayhi salam a pris en emmenant avec lui les Banu Israël. Moussa alayhi salam les a invités vers le tawhid, vers le dîn d'Allah. Et ces gens-là, ils ont accepté son message. Moussa alayhi salam les a convaincus de quitter le royaume et de faire la hijra, d'émigrer avec lui. Et comme on a dit, c'est un peuple qui n'est pas prêt à combattre. C'est un peuple qui a peur, c'est un peuple apeuré, traumatisé, après des années et des années de torture. Et ce peuple-là, il se retrouve en face de la mer, avec l'armée dans leur dos et les montagnes à droite et à gauche. Mes chers frères et mes chères sœurs, dans ces moments où on ne voit aucune issue, c'est dans ce genre de situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve la foi du musulman, du mu'min. C'est dans ce genre de situation que vraiment, que de notre cœur va sortir, va ressurgir, qu'est-ce qu'il y a réellement? Est-ce qu'il y a la confiance en Allah Azza wa Jal ou il y a la confiance en les choses qui sont mahsous, en les choses qu'on peut voir, les choses qu'on peut entendre, les choses qu'on peut toucher? En d'autres mots, est-ce que vraiment on a iman bil ghaib? Est-ce qu'on a réellement la foi en l'invisible ou on a la foi sur ce qu'on voit, on a la foi sur ce qu'on peut acheter, on a la foi sur ce qu'on entend? Ça, c'était une épreuve extrêmement difficile pour les Banu Israël. Mais Moussa alayhi salam, lui, il était apaisé. Il n'avait pas peur. Parce qu'il savait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a emmené vers cet endroit. Mais sachez que ça, c'était la pire des situations possibles. Il ne pouvait pas y avoir pire que ça. D'accord? Ni la tabi'a, ni la nature, il n'y a rien qui peut concrètement aider les musulmans. Il n'y a pas d'asbab. Il n'y a pas d'intermédiaire possible pour qu'il y ait une nusra immédiate. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Les Banu Israël, maintenant, ben, ils vont voir Moussa alayhi salam. Ils se sont mis à parler à Moussa alayhi salam. Ils se sont plaints à Moussa alayhi salam, d'un certain sens. Ils disent que, oh Moussa, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que l'armée arrive et qu'il y a la mer devant nous et les montagnes, il n'y a plus d'issue possible au Moussa, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Allah Azza wa Jal révèle ce verset à Moussa alayhi salam, Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Il dit non, Allah est avec moi. Il fait comprendre au Banu Israël que Allah Azza wa Jal va m'apporter son aide. Les secondes qui passent sont des secondes qui les approchent vers une mort certaine, avec une armée, un ajib et un abim qui s'approche d'eux. Mais Moussa alayhi salam garde confiance en Allah parce que Allah ta'ala dit wa awhayna ila Moussa. Allah a révélé à Moussa alayhi salam de se rendre à cet endroit. Et si Allah a décidé de les amener vers cet endroit, Allah ne va pas les abandonner. Et vous savez qui c'est qu'il y a parmi les Banu Israël? Il y a Moussa alayhi salam, bien sûr, Moussa Kalimullah, une personne qui fait partie des Ulul Azm, des cinq grands prophètes. Il y a également son frère Haroun. Il y a également Yusha alayhi salam, qui faisait partie des Ubbad, des grands adorateurs, on pourrait dire des Uzlouk, des hommes pieux, parmi les Banu Israël, et qui deviendra par la suite prophète lui aussi. Et il y a parmi eux les Mu'minir alayhi salam. Alors ça, c'est des gens exceptionnels. Les Mu'minir et les Pharaon, ce sont les gens qui faisaient partie des proches de Pharaon, alayhi la'natullah, mais qui ont cru en Moussa, alayhi salam. C'est des gens qui ont un quota de iman exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté ce din tawhid malgré les persécutions. Ils ont un iman forgé dans le roc. C'est des gens qui ont une conviction en Allah, mais c'est exceptionnel. Ce sont ces personnes qui, parmi eux, qui avaient vu l'affrontement qui devait avoir lieu entre Moussa alayhi salam et les sorciers. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal avait révélé à Moussa alayhi salam de jeter son bâton et que le bâton de Moussa alayhi salam s'est transformé en serpent, Pharaon qui était présent, qui avait déjà vu beaucoup de signes, mais Pharaon avait un cœur rempli d'orgueil et de fierté. Et cette qualité, ce défaut plutôt, on le retrouve dans beaucoup de gens qui n'acceptent pas le dîn d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que ça c'est dîn ou haq, qu'il y a la véracité de cette religion. Mais la seule chose qui les empêche de faire le pas, c'est l'orgueil, la fierté ou alors les intérêts personnels. C'était exactement la réaction de Pharaon. Il était persuadé que Moussa alayhi salam était dans le droit chemin et qu'il était lui dans le faux. Mais il était le roi. Il disait aux gens, regardez, les fleuves coulent à mes pieds. D'accord? Il disait, comment pouvez-vous croire à cet homme qui a du mal à s'exprimer alors que moi, alayhi salimul kumisra, vous ne voyez pas que le royaume d'Égypte m'appartient. Wahadil anhar ou tajimim kahdi, que ces fleuves-là, ils coulent, ça m'appartient. D'accord? Pharaon avait atteint un tel degré d'orgueil, de fierté, qu'il ne voulait plus, on ne dit pas qu'il ne pouvait plus, mais qu'il ne voulait plus faire marche arrière. Et donc, les Mu'mina et les Pharaon, lorsqu'ils ont vu ce miracle de Moussa alayhi salam, il a suffi qu'il y ait un seul signe de la part d'Allah, le bâton qui se transforme en serpent, pour qu'ils se mettent à se prosterner et à reconnaître que ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Nous sommes des sorciers, nous connaissons c'est quoi la sorcellerie, mais ça, ça vient du Créateur. Et ils ont accepté l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Furieux, Pharaon voit les gens que lui-même a convoqués pour défier, pour humilier Moussa alayhi salam, en train d'accepter la religion de Moussa alayhi salam. Il menace ces gens. C'était quoi la menace? لَوَقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Pharaon les a menacés, et il pouvait le faire. Je vais vous couper la main et la jambe opposée, c'est-à-dire couper la main droite et la jambe gauche, ou la main gauche et la jambe droite, pour que la personne devienne encore plus handicapée que si on l'avait coupé d'un seul côté. Et après vous avoir découpé les membres de la sorte, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, je vous ferai crucifié, jusqu'à ce que vous vidiez de votre sang et que vous mourrez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Subhanallah, regardez, en quelques secondes, comment ils ont atteint un degré de iman qui était tel qu'ils étaient prêts à mourir, mais persécutés, torturés, mutilés, plutôt que de quitter ce dunya avec le kufr. Ils ont dit, qalu, inna ila rabbina munqalibun, non, on a confiance en Allah Azza wa Jal. Ils ont osé défier par on dit que nous en remettons entièrement Allah Azza wa Jal. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Ils ont dit à Pharaon, En ce sens, la seule chose qui provoque ta colère, c'est le fait que nous croyons en un signe qu'Allah vient de nous faire voir. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Ils étaient prêts à mourir. Dieu Allah, accorde-nous hein, le maximum de patience et que notre roue, lorsque notre âme quitte ce dunya, notre âme quitte avec istislam lillah, que nous quittons ce dunya en tant que mu'min. Mes chers frères, mes chers soeurs, cette réaction de ces gens qui venaient d'accepter le tawhid est une réaction magnifique. Exemplaire, c'est une leçon pour l'humanité. Si nous analysons quel est notre état d'esprit maintenant, pour beaucoup moins que ça, là, Pharaon les menace de les exécuter, torturer, mutiler et exécuter. Il peut le faire. C'est lui seul qui commande en Égypte. D'accord ? Mais nous, Allah Musta'an, il suffit qu'il y ait une personne qui nous regarde de travers. Il suffit que quelqu'un nous mette un peu de pression pour qu'on ait un peu peur que je ne serai pas intégré, ou alors qu'on va me percevoir comme un intégré, soit chose, pour qu'on soit prêt à abandonner des choses qui font partie de notre religion. On va essayer de cacher notre identité de musulman, de crainte de ne pas se voir intégrer dans la société, de crainte de ne pas avoir un bon travail. Si on insiste, on dit que tous les ambiyas, on prendra un exemple, ils avaient cette merveilleuse sunna que de garder la barbe allongée.